Bonjour, Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 24 décembre 1942, l'assassinat de l'amiral Darlan. En cette veille de Noël 1942, il fait un temps splendide à Alger. Au palais d'été, résidence du haut commissaire, une voiture s'arrête un peu avant 15h dans la cour. L'amiral François-Xavier Darlan en descend, suivi de son officier d'ordonnance. Dans l'antichambre, un jeune homme attend, mince, élégant. Tout à coup, un coup de feu retentit. Il est suivi d'une seconde détonation. L'amiral s'effondre sur le sol avec un faible gémissement. Le jeune homme tient un revolver à la main. Il est difficilement maîtrisé. Maintenant, l'antichambre est pleine de policiers. Le tireur est emmené dans le bureau des plantons. Pressé de questions, il déclare s'appeler Morand. Il ne faut pourtant guère de temps pour apprendre qu'il se nomme en réalité Fernand Bonnier de La Chapelle. Fils d'un notaire, devenu député du Lot-et-Garonne, diplômé de l'école navale, Darlan est un valeureux combattant de la Première Guerre mondiale. Major des hautes études navales en 1925, il devient contre-amiral en 1929, puis chef d'état-major de la marine en 1937. Grand croix de la Légion d'honneur, il est élevé au grade d'amiral de la flotte en juin 1939. Il est nommé ministre de la Marine dans le gouvernement de Philippe Pétain le 16 septembre 1940. Le 13 décembre, Pétain renvoie Pierre Laval, jugé trop favorable à l'Allemagne nazie. Darlan lui succède à la tête du gouvernement de Vichy. En avril 1942, Pétain rappelle Laval. Darlan abandonne alors toutes ses fonctions gouvernementales. Il demeure toutefois commandant en chef des armées de terre, de mer et de l'air. Darlan n'éprouve aucune sympathie pour le nazisme. Il est néanmoins persuadé de la victoire allemande. Fidèle à Pétain, il est pragmatique. En juin 1941, il déclare à l'amiral William Leahy, ambassadeur des États-Unis à Vichy, « Si les États-Unis sont à même de débarquer à Marseille 500 000 hommes, 3 000 chars et 3 000 avions, moi, Darlan, je suis prêt à marcher avec vous. » Les mois passent et aucune réponse américaine ne confirme ce souhait. Cependant, dans les premiers mois de l'année 1942, Darlan renouvelle son état-major. Il remplace les officiers collaborationnistes par d'autres plus favorables aux puissances alliées. La certitude du triomphe de l'Allemagne s'estompe. En septembre 1942, Alain Darlan, fils de l'amiral, sollicite un rendez-vous avec Robert Murphy, représentant personnel du président Franklin Roosevelt en Afrique du Nord française, pour lui transmettre quelque chose de la part de son père. Retenu aux États-Unis, Robert Murphy fait recevoir Alain Darlan par Félix Cole, consul général américain à Alger, qui s'en ouvre à Jean Rigaud, l'une des cinq personnalités qui élabore les plans du débarquement en Afrique du Nord. Les Américains sont alors en quête d'un chef français indiscutable, à l'appel de qui l'Afrique du Nord pourrait se soulever le jour J. Perçu comme l'homme des Anglais, Charles de Gaulle est écarté. Certes, il existe bien un modeste mouvement gaulliste en Algérie, avec notamment René Capitan, mais son autorité paraît inexistante. Le général Henri Giraud, qui vient de faire allégeance à Pétain, est l'homme de la situation. Toutefois, il est hésitant. Il souhaite reprendre les armes, mais il considère que l'opération militaire doit se jouer en métropole avec les 100 000 hommes de l'armée d'armistice soutenus éventuellement par un débarquement américain en Provence. Finalement, en juin 1942, le général Giraud se rallie à l'idée d'un débarquement en Afrique du Nord. il accepte de se rendre le moment venu en Algérie pour y prendre le commandement des troupes françaises. Le 28 octobre 1942, Robert Murphy informe le général Giraud que le débarquement est fixé au 8 novembre. L'action débute la veille à 23h30, l'effet de surprise est total, Alger est rapidement aux mains de la résistance. Robert Murphy demande à l'amiral Darlan de rejoindre le mouvement, refusant de trahir son serment envers le maréchal Pétain. Il communique avec lui par fil direct, ignoré des Allemands. Le chef de l'État français lui répond « Vous savez que vous avez toute ma confiance ». Darlan interprète cela comme une sorte de blanc-seing. Il est maintenant persuadé de la nécessité de traiter avec les Américains. Au début de l'après-midi du 8 novembre, le général Juin, sur l'ordre de Darlan, signe la reddition d'Alger. Le lendemain, le général américain Clark rencontre Darlan. Il lui affirme que 150 000 hommes ont débarqué, ce qui est inexact, et le presse de signer un armistice. De nouveau, Darlan consulte Pétain par la ligne télégraphique secrète. Le chef du régime de Vichy répond qu'il est pleinement d'accord. Il précise néanmoins qu'il ne peut donner d'instructions définitives sans avoir consulté Laval, parti conféré avec Hitler. Darlan envoie un nouveau message à Pétain, l'informant que les officiers de son entourage estiment urgent de cesser le combat. Le 10 novembre, à 10h, le général Clark retrouve Darlan. Le climat est orageux. L'officier américain n'admet plus aucune tergiversation. Il laisse 30 minutes à Darlan pour se décider sous peine d'être mis en état d'arrestation. L'amiral franchit alors le Rubicon. À 13h, le général Giraud est informé de la décision de Darlan qui incarne désormais l'autorité suprême en Amérique du Nord. La carte Giraud n'existe plus. En métropole, les événements se précipitent. Les troupes allemandes franchissent la ligne de démarcation et envahissent la zone libre. Conscient du risque qu'entoure la flotte mouillée à Toulon, Darlan lui ordonne de gagner Dakar. L'amiral de la Borde refuse d'obtempérer et à l'approche des Allemands donne l'ordre à la flotte de se saborder. La rupture de l'armistice par l'Allemagne et la protestation solennelle de Pétain donnent définitivement les mains libres en Afrique du Nord à Darlan. Dorénavant, il s'exprime au nom du maréchal prisonnier. Dès son arrivée à Alger, le général Eisenhower le présente comme le meilleur ami des États-Unis. À Londres, la presse britannique se déchaîne. Elle accuse les Américains d'avoir enfreint les règles les plus élémentaires de la morale en mettant en place en Afrique du Nord le tenant de la collaboration avec l'Allemagne nazie. L'amertume du général de Gaulle et des combattants de la France libre est immense. Seuls depuis 1940, ils estiment avoir sauvé l'honneur de la France. Or, ils sont tenus à l'écart. Aux États-Unis, la presse exprime sa gêne et même son hostilité. Plus les semaines passent et moins à Alger, la position de Darlan paraît confortable. Le chef des gaullistes, René Capitan, orchestre avec une vigoureuse campagne de dénigrement. Sur les murs, il est possible de lire « Darlan est un traître » ou bien « Tuer Darlan » ou encore « L'amiral à la flotte ». Si une majorité de Français d'Algérie admettent encore l'autorité de Darlan, une minorité de plus en plus agissante estime que tous les problèmes seraient résolus s'il quittait le pouvoir. C'est dans ce contexte tendu que survient son assassinat. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant d'écouter la chronique littéraire « Un jour, trois livres ». C'est Françoise Hardy qui nous accompagne en chanson avec un titre de 1965, « Mon ami la rose ».
On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant, j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On met bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses. C'est mon amie la rose qui l'a dit hier matin.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire qui a été préparée par Emmanuel. Un jour, trois livres. Nous commençons par le Noël de l'assassin. Voici la 42e enquête de l'inspecteur Higgins. Cette fois-ci, nous nous retrouvons à Oxford en période de Noël. Le cadavre d'un proctor, haut dignitaire de l'université si prestigieuse, gît dans le logement qu'occupent deux étudiants. Ces derniers ainsi qu'une ancienne étudiante reconvertie en sportive de haut niveau et des professeurs sont-ils les meurtriers ? Il faut faire vite pour dénouer le mystère, pour éviter tout scandale, et c'est ainsi que nous visiterons au gré des pages de ce policier particulièrement bien enlevé, l'université d'Oxford, et ferons connaissance avec ses traditions séculaires. Le Noël de l'assassin, c'est signé Christian Jacques, et c'est une co-édition XO et J. Édition. Le masque de l'assassin, toujours Christian Jacques, toujours en coédition XO et J édition. Un assassin porte toujours un masque, mais là il en porte plusieurs en pleine pandémie de Covid. Voilà une situation bien actuelle. Le spécialiste des épidémies, Gilbert Redbrichot, est pressenti pour devenir le ministre de la Santé de Sa Majesté, mais il est assassiné par un personnage dissimulé sous un triple masque par l'injection d'un virus mortel. Autour de lui, plusieurs masques anti-Covid sont disposés, chacun portant un nom, sa femme en instance de divorce, sa fille rejetée par lui, son assistant en perpétuel conflit avec lui. A Higgins doté tous ses masques pour découvrir l'assassin. Le masque de l'assassin de Christian Jacques aux éditions XO en coédition avec J. Édition. Et pour terminer, le manuscrit Qatar, c'est publié aux éditions Le Cherche Midi et c'est signé Steve Berry et Im G. Rose. Cassiope Vite a décidé de rénover un château du XIIIe siècle près de Givors. Lors des travaux, elle découvre une boîte en or ornée de la croix du Languedoc. À l'intérieur, un manuscrit enluminé écrit en occitan en lien avec les cathares déclarés hérétiques par le pape en 1208. Alors qu'une société secrète a décidé de le récupérer, elle va devoir en déchiffrer les énigmes et sur l'une de ses pages figure une carte cryptée indiquant l'emplacement du secret le mieux gardé des cathares dans une grotte préhistorique aux peintures rupestres extraordinaires. Le manuscrit Qatar de Steve Berry, c'est aux éditions du Cherche Midi. Ainsi s'achève cette chronique littéraire. Merci à Emmanuel qui l'a préparée. Ainsi s'achève également cette émission Historama. Merci à Lucas qui l'a réalisée. Et c'est en chanson que nous allons nous séparer avec Françoise Hardy, un titre de 1966, La maison où j'ai grandi.
Oh,